Bonsoir mesdames et messieurs, voici votre magazine Tribune de la Presse sur Radio Okapi. Freddy Bikumbi Ignace est à la présentation avec trois journalistes invités pour échanger autour de la rencontre qui a eu lieu à Goma mercredi 12 février entre les représentants de la CENCO et de l'ECC face aux rebelles du M23. Également, on évoquera au cours de ces magazines les conséquences probables à la suite de la décision du gouvernement Trump, celle de fermer l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Bienvenue à tous. Et pour échanger sur ces deux sujets, je suis avec Monsieur Serge Mafuta Kintambo. Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse.
Bonsoir Radio Okapi, bonsoir à tous les auditeurs, merci d'avoir pensé à nous de nouveau.
Vous êtes journaliste et directeur de la radio rurale de Gemina au sud de Ubangi. Bonsoir J.R. Mokolo.
Bonsoir à tous les confrères avec qui on va en tout cas faire l'émission aujourd'hui. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio Okapi, la radio de la paix.
Vous êtes journaliste indépendant travaillant ici à Kinshasa. Monsieur Umbo Salama Horace, bonsoir.
Bonsoir Freddy Bikumbi, bonsoir Radio Okapi, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi. C'est encore un plaisir de participer à cette tribune de la presse.
Vous êtes à Butembo, au Nord Kivu, journaliste et directeur de la Radio Soleil FM. Étant de journaliste, veuillez nous dire les faits qui ont marqué l'actualité dans votre zone de travail. Umbo Salama.
Oui, ici à Butembo, l'actualité qui est encore fraîche et qui est en train de marquer presque la ville et presque toute la province du Nord Kivu, c'est la mort du musicien révolutionniste Delcate Idengo, qui est bien connu. Bon, son nom, c'est Delphin Katembo Vunyatsi, et qui a été abattu en ville de Goma hier jeudi 13 février. C'était, selon le dire des gens, pendant qu'il était en train de tourner un clip. Et malheureusement, certaines sources disent qu'il était habillé à tenue militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a mené qu'on puisse tirer sur lui. Et il y a le ministre de la Communication qui lui a rendu hommage et qui l'a déclaré, qui l'a mis sur la ligne des martyrs de cette guerre qui est en train de se dérouler à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a aussi d'autres personnes qui lui ont rendu hommage. Et c'est cette mort a créé des manifestations spontanées dans la ville de Goma, dans la ville de Beni plutôt, où il y a eu des boutiques qui ont fermé, les gens qui ont brûlé de feu dans différents carrefours, il y a eu des gens qui ont descendu dans la rue, qui étaient en train de vouloir réclamer que justice soit faite sur cette mort de Delcate Idengo. Et aussi, on doit se souvenir que Delcate Idengo a été plusieurs fois emprisonné pour outrage au chef de l'État, et il a été plus de trois fois emprisonné. Et il a sorti de la prison de Muzenze à Goma. C'était récemment quand les forces de M23 sont entrées dans cette ville et il y a eu beaucoup de prisonniers qui se sont enfuis. Et lui aussi a été parmi l'équipe des membres des prisonniers qui ont quitté la prison dans cette circonstance. Malheureusement, après la sortie, il a enregistré une musique et il voulait maintenant monter le clip de cette musique et c'est dans ces circonstances qu'il a été tué. L'autre actualité ici, c'est la visite du vice-premier ministre de la Défense qui est arrivé à Beni, Kabombo Mwadiavita qui est arrivé à Beni, il s'est rendu aussi à Lubero, la ligne de front entre les FRDC et les M23. Et aussi, il a visité les forces armées de la RDC et les Wazalendo qui étaient blessés sur la ligne de front et aujourd'hui qui sont alités à l'hôpital général de référence de Beni. Il a aussi inauguré un nouvel hôpital militaire à Mambango, au camp général Chico. Et donc, voici au moins l'actualité qui nous a marqué, mais on n'a pas eu de conclusion par rapport à sa visite et ce qu'il a remarqué. Peut-être c'est ce qu'on va attendre dans le futur.
Revenons ici à Kinshasa. J.R. Mokolo, quelle est l'actualité?
Oui, moi je veux en tout cas m'intéresser surtout à l'insalubrité qui caractérise en tout cas la vie de Kinshasa. Donc il y a trop de saleté à Kinshasa. Et non, on avait cru que les nouvelles autorités de la ville pouvaient en tout cas donner un coup de pouce pour commencer d'abord par mener une campagne, par exemple, d'éducation civique auprès de la population. Il faut quand même que les gens soient conscients que la saleté, c'est la maladie, que la pauvreté, c'est la bonne santé. Mais malheureusement, nous continuons en tout cas à souffrir avec de l'insalubrité partout. Les caniveaux sont remplis des immondices. Et deuxièmement, je voudrais aussi en tout cas interpeller les autorités de la SNEL. Nous souffrons terriblement de l'obscurité, il n'y a pas de courant, et particulièrement dans les quartiers Kingaboa, Usam, il y a une cabine là qui s'appelle cabine maternité. Donc les gens sont restés dans les noirs depuis fin 2023. Donc depuis que les ministres en charge de l'infrastructure est allé là-bas donner le coup d'envoi des travaux, des constructions, des réhabilitations des routes, les travaux jusqu'à aujourd'hui sont au point mort. Et à cause de ces travaux qui sont au point mort, on avait pratiquement démonté les poteaux de la SNEL, ce qui fait que certains départs étaient supprimés. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, il y a des gens qui n'ont plus d'électricité parce qu'ils ont été déconnectés à cause de ces travaux. Et comme on ne sait pas en tout cas finir ces travaux, nous invitons les autorités de la SNEL de pouvoir en tout cas faire tout pour réhabiliter l'électricité dans tous ces départs-là qui n'ont pas été fournis en électricité depuis, j'ai dit, fin 2023. Donc ça fait pratiquement plus d'une année que les gens sont dans les noirs. Et je crois que ce n'est pas normal dans une capitale comme Kinshasa où il y a l'insécurité, où il y a les Kuluna, créer rayon maître à Kingaboa, laisser les gens comme ça près de 2 ans dans l'obscurité, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et c'est même un manque à gagner pour la SNEL. Il suffit seulement de réhabiliter les départs de cette cabine-là à Kingaboa, 2 départs 4 à Kingaboa, et les gens vont commencer à payer l'électricité. Donc c'est un manque à gagner aussi. Et c'est comme si la SNEL n'a pas en tout cas besoin des abonnés, et pourtant la régie des eaux, malgré qu'elle a aussi des difficultés, mais elle fait en tout cas énormément d'efforts pour que nous puissions avoir des l'eau tout le temps. Mais pour la SNEL, c'est vraiment, nous sommes désolés. Près de 2 ans sans électricité à Kingaboa, dans les quartiers Kingaboa-Isam, ce n'est pas normal, en tout cas c'est ça.
Et rendons-nous au Guémena. Que retenir, Serge, sur l'actualité dans ces coins du pays?
Ce que nous devons retenir pour le corps de la province du sud de Bangui, c'est l'actualité liée au cas de braquage de 68 millions de francs congolais destinés à la paye des ASEAN par la Caritas. Cet argent-là a été braqué dans les territoires de Guémena, précisément à Bomilengue, dans le secteur de Bangakoungou. Depuis qu'il y a eu cas de ces braquages, on a appris qu'il y a eu arrestation de présumés auteurs de ces cas de braquage. Mes chers confrères, les ASEAN qui sont victimes de ces cas de braquage n'ont jusque-là aucune suite. Il y a même certains chefs d'établissement qui ont été menacés de quitter leur école par les ASEAN et par les habitants du village, tout simplement parce que cet argent-là destiné à la paye, pour cela, ils souhaitaient que ce directeur-là devait nécessairement aller pour récupérer l'argent le même jour. Comme ils n'ont pas fait, et que les autres écoles étaient payées, ils n'ont pas été payés, ils ont fait de ça un problème, et ça constitue déjà une difficulté. Je vais par l'occasion dire, parce que depuis là, nous on entendait peut-être que l'exécutif provincial devrait diligenter une mission d'enquête ou une mission de visite de réconfort à la population du secteur de Bangakoungou pour apaiser la tension, mais jusque-là rien ne s'est fait, en dehors la police et l'armée qui étaient descendus pour mettre main sur les présumés auteurs. Mais jusqu'à ce jour, les directeurs de toutes les écoles sont ici à Guémena.
Merci à vous tous pour ce partage d'actualité. Abordons maintenant notre premier sujet. Une délégation composée de membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC a rencontré mercredi à Goma le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC Corneille Nanga et d'autres dirigeants du groupe rebelle M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de consultations menées par ces deux confessions religieuses auprès des acteurs sociopolitiques du pays pour tenter de trouver une issue à la crise actuelle. D'après le secrétaire général de la CENCO, le représentant religieux ont présenté leur plan de sortie des crises intitulé « Pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC ». Ceci vise à renforcer la cohésion nationale. On écoute ici Mgr Donatien Cholet dans cet extrait que nous propose Grâce Amzati.
Nous avons pensé que la FCM 23 a quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population AFC bar M23 représentée par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir en les écoutant. Ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si le Congolais se mettait autour d'une table. On a eu des réponses assez rassurantes que nous ne sommes pas dans la dynamique de la balkanisation, nous ne sommes pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire.
Signalons qu'ils ont aussi rencontré le président rwandais jeudi à Kigali. Comment trouvez-vous cet échange avec les délégués du M23? Est-ce une lueur d'espoir pour la sortie de cette crise politique et sécuritaire? Serge, vous avez toujours la parole.
Oui, cher confrère, par rapport à la démarche menée par la CENCO et l'FCC, j'étais parmi ceux qui s'étaient posé des questions par rapport à cette initiative d'où tout le monde souhaite que la paix puisse revenir dans ce pays. Et nous disons ce soir que même si on combattait avec les M23, la solution c'est toujours la paix. Même si les Congolais se mettaient autour d'une table, la solution, c'est la paix. Normalement, le gouvernement congolais devrait s'impliquer davantage. Les acteurs politiques, l'opposition armée et non armée, devraient ensemble réfléchir autour de la paix à l'aide de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, ce qui m'inquiète actuellement est que, même au sein de l'opposition ainsi que de la majorité, nous ne parlons pas même langage. J'ai vu même des gens injurier les prêtres, tout simplement parce que ils ont rencontré Nanga et parlé avec Nanga. Nanga a dit ce qu'il pouvait dire. Cette démarche, selon nous autres, devrait nécessairement continuer. Mais comme les acteurs politiques congolais ont toujours trouvé le cadre d'échange, le cadre de dialogue, comme un lieu de partage de pouvoir, vous verrez qu'il y a certains cadres de l'Union sacrée, même les partis présidentiels, qui est contre la démarche que mène actuellement la CENCO pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que nous tous savons que, selon l'histoire des guerres qui se sont déroulées, des rébellions ou des belligérances, il y a eu toujours un dialogue pour apaiser la tension et permettre à la population de reprendre la vie normale. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a certains qui disent que non, on ne peut pas négocier parce que le président de la République ne respecte pas les accords. Il y a certains aussi qui disent que non, on ne doit pas négocier, on doit aller toujours faire la guerre avec le Rwanda qui appuie actuellement M23 pour chercher à stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Alors au moment où ils se battent là, c'est la paisible population qui est d'ailleurs innocente, qui continue à fuir dans la forêt, qui continue à mener une vie tellement difficile. Donc je pense que la démarche que mène CENCO actuellement à Goma, auprès du M23, ASC, vaut son pesant d'or pour amener la paix. Je voudrais enchaîner un peu encore en disant ceci. Vous savez, si on mettait que non, si on disait peut-être que bon, le dialogue que nous voulons organiser ne va pas aboutir au partage des postes, certains membres de l'Union sacrée vont saluer. Je présume ici qu'il y a certains qui pensent que non, parce que quand on va dans le dialogue, il y a le système de quotas qu'on donne. On dira opposition non armée, autant de quotas. Opposition armée, autant de quotas. Le gouvernement, autant de quotas. Certains sentent déjà qu'ils seront envoyés au chômage et il faut faire des bruits pour camper. Alors que si le pays n'est pas en paix, le gouvernement actuel ne va pas siéger. Il faut que la paix revienne. J'ai suivi les gens dire que non, l'église catholique venait de trahir le peuple congolais en allant vers le M23. Mais on sait que l'église en soi n'est pas un lieu pour condamner. On ne condamne pas dans les églises. Dans les églises, d'ailleurs, on prêche ceux qui commettent des péchés pour qu'ils puissent changer leur comportement. Je ne trouve pas le péché que la Cinco a fait, il est cessé. Aujourd'hui, on alla vers les gens-là du M23 pour parler. D'ailleurs, on a commencé à consulter le président de la République jusqu'à ce qu'on va étendre ça sur tous les acteurs politiques congolais, même la société civile pour permettre que la paix revienne.
Merci,
donc,
cher.
Je trouve cette démarche logique.
Oumbo Salama, les envoyés de l'ECC de la CENCO étaient à Goma, mais aussi à Kigali, rencontrer Paul Kagame.
Oui, je pense que dans cette crise, quand on essaie un peu de parler de négociations ou des rencontres, il y a ce côté-là qu'on a toujours l'habitude d'oublier, c'est la présence de la société civile. Et je pense que c'est dans cette circonstance que les évêques se sont dit, donc les choses ne peuvent pas chaque fois se passer en dehors de nous. Nous devons aussi faire quelque chose pour trouver quelques issues. Et c'est pourquoi ils devraient rencontrer les gens du M23. Vous savez qu'au niveau, par exemple, de la presse, le gouvernement a déjà mis beaucoup d'embargo par rapport à ce qui peuvent faire parler les belligérants dans leurs informations. Et donc, avec l'arrivée des évêques et de l'ECC auprès du M23, nous pensons qu'ils ont eu quand même le temps de récolter maintenant les vraies revendications des membres du M23, FCC, et peut-être qu'on va commencer maintenant à avoir des lueurs d'espoir par rapport à leurs revendications et comprendre est-ce que les revendications sont légitimes, est-ce que les revendications sont fabriquées, est-ce que derrière les revendications il se cache quelque chose, et avec les évêques là ça sera au moins possible. Mais la question que nous devons nous poser c'est de savoir est-ce que de leur côté, notre gouvernement sera réceptif par rapport à tous les éléments que la CENCO et le SC vont récolter auprès des membres du M23-SCC, auprès du président rwandais, auprès des... Puisque on a dit la prochaine étape, ça sera aller voir les membres de l'Occident. Est-ce que les éléments qu'ils vont récolter là-bas, le gouvernement va les prendre en charge? Est-ce que le gouvernement est prêt à écouter ce que les évêques vont dire? Puisque nous sommes en train de voir comme si, quelque part, il y a ceux qui prennent cette situation au sérieux. Et au niveau des institutions nationales, on essaie un peu de voir comme si c'est de la farce, comme si c'est du théâtre. Puisque le même jour que les M23, les évêques, et les membres de l'Église du Christ au Congo ont rencontré les M23. Au même moment, le président de la République a rencontré aussi d'autres confessions religieuses à Kinshasa. Et là, on ne sait pas comprendre c'est quelle démarche qu'on est en train de suivre. Est-ce que le gouvernement est d'accord que les évêques vont ramener les véritables revendications du M23 et que le gouvernement est prêt à les écouter, à mettre en pratique ce qu'ils vont dire pour qu'on puisse quand même trouver des lumières de paix. Puisque si ces éléments ne sont pas bien suivis, nous risquons de continuer de verser le sang des Congolais chaque jour, comme on sait que vous avez vu les bilans qu'on est en train de dresser au niveau des Goma. Puisque là, nous ne savons pas les bilans qu'il y a à ce moment dans le sud Kivu. Et au même moment, on ne sait pas comprendre si le gouvernement est en train de prendre tous ces éléments en considération. Puisque si le gouvernement ne prend pas ça en considération, ne voit pas la souffrance de la population, nous risquons d'aller chaque jour au verser le sang, chaque jour au verser le sang, et c'est la population qui sera en train d'être exterminée, la population qui sera en train de perdre, et le gouvernement doit nous dire s'il est prêt à écouter ce que les évêques vont dire.
Oumbo Salama, votre ligne, il faut bouger un peu ou désactiver si vous avez appliqué mode haut-parleur. Mais J.R. Mokolo, ici à Kinshasa, dans un communiqué rendu public, l'UDPS est parti au pouvoir, a montré son désaccord sur cette voie de la CENCO et de l'ECC, surtout de rencontrer le M23. Et même, ils sont allés jeudi voir Kagame à Kigali.
Il est tout à fait normal que la démarche de la délégation de la CENCO et de l'ECC ne puisse pas en tout cas faire l'unanimité. Chacun a ses intérêts. Pour sûrement l'UDPS et d'autres groupes politiques, bon, ils estiment par exemple que bon, ce sont des gens qui ont versé le sang des Congolais, qu'il ne faut pas en tout cas les approcher, et surtout que l'opinion est très très mécontente, quoi, la majorité de l'opinion est très très mécontente. L'UDPS étant un parti de masse qui écoute sa base, je crois que cette position-là, en tout cas, est faite pour ne pas, pour satisfaire en tout cas la base, quoi, qui est contre cette démarche-là de l'Église catholique et de l'Église protestante. Mais il faut reconnaître que même le président de l'Assemblée nationale a dit hier, lors de la clôture de la session extraordinaire, mais l'équipe de la CENCO et de l'ECC ont rencontré les chefs de l'État. Ils ont rencontré aussi certains opposants sur place ici à Kinshasa. Bon, ils sont sortis à partir de l'aéroport de Ndjili. Je crois que même les services étaient au courant des démarches qui sont en train de mener. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est la solution qu'on doit trouver pour mettre fin à la guerre, parce que les gens sont en train de souffrir là-bas à l'Est. Il y a des morts et des morts depuis pratiquement 30 ans. Et que nous ne devons pas en tout cas continuer. Bon, je sais qu'il y en a qui estiment que non, il faut choisir la voie militaire, il faut combattre l'M23 et ses soutiens des Rwandais par les armes et les chasser par les armes. Bon, la question qui me dérange, cette guerre-là, pour chasser l'M23 et les Rwandais, les zones occupées, ça prendra combien de temps? Cette guerre-là va se dérouler sur le sol congolais. Donc, il y aura des Congolais qui vont continuer à mourir. Si au moins nous avons la capacité de transporter les champs de bataille sur le territoire rwandais, en ce moment-là, moi je crois que l'option militaire exclusive peut être encouragée. Mais du moment où les affrontements se passent au Congo, le moment où les destructions se passent au Congo, moi je crois que s'il y a des gens de bonne volonté qui ont vu le chef de l'État, qui lui ont expliqué les bien fondés de leur démarche, moi je crois qu'il ne faut pas les décourager, il faut leur laisser le main libre pour qu'ils puissent en tout cas écouter tout le monde. Parmi les belligérants, il y a l'M23. Parmi les belligérants, il y a les Rwandais. Mais c'est tout à fait normal qu'ils puissent voir l'M23, qu'ils puissent voir le gouvernement rwandais pour échanger avec ce gouvernement. Faire savoir à Kagame, par exemple, tout le mal qu'il fait à notre pays et toutes les violences que subissent les populations congolaises. Et écouter aussi ce que lui a à dire. Et in fine, quand ils auront fini à écouter toutes les parties prenantes, tous ceux qui sont concernés par cette crise militaire, c'est à ce moment-là qu'ils vont revenir ici à Kinshasa. Ils vont sûrement, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, ils vont revoir les chefs de l'État qu'ils ont vus en premier pour échanger avec lui et voir dans quelle mesure il y aura peut-être des dialogues ou un forum qui va être organisé pour essayer un peu de trouver une solution en tout cas à cette crise-là par des moyens pacifiques. Parce que même si une partie gagne cette guerre-là, même si la RDC rapportait sur le Rwanda ou sur le 23, ils finiront toujours par se mettre autour d'une table pour que la partie qui aura perdu sur le terrain ne puisse pas demain en tout cas se préparer pour prendre sa revanche. Et tout ça aussi parce qu'il y a des Congolais qui s'associent aux étrangers. Mais pourquoi ces Congolais s'associent aux étrangers? Est-ce qu'ils sont frustrés? Est-ce qu'ils ont des choses à reprocher dans la gouvernance du pays? Donc tout ça, je crois que c'est ce qui va permettre aux évêques de la CENCO et aux pasteurs de l'Église protestante de pouvoir les écouter et les transmettre à qui les doit pour essayer un peu d'établir des ponts quoi entre ceux qui se battent et pour que la population puisse en tout cas recouvrir la paix et la stabilité et la tranquillité. Parce que sur place ici à Kinshasa, il y a des gens qui peuvent privilégier l'option militaire, mais et ils sont loin de là où les gens, où la guerre se passe. Ils ne sont pas victimes de déplacement. Et ils n'errent pas dans la nature comme ceux qui sont à l'est du pays. Donc nous devons réfléchir aussi, nous devons penser aussi à nos frères et sœurs qui souffrent à l'est du pays et qui, s'il y a des gens de bonne volonté, qui veulent en tout cas rapprocher les différentes parties pour trouver une solution négociée, je crois qu'il faut les encourager plutôt que de les décourager
Merci J.R. Mokolo. Parlons maintenant de cette décision du président Donald Trump de demander à son gouvernement de fermer USAID, l'agence américaine de développement international. USAID finance aussi certaines organisations locales et internationales œuvrant en République démocratique du Congo pour assister les déplacés des guerres, notamment ceux de l'Ituri, où des milliers de personnes seront affectées par cette décision du gouvernement américain, surtout de suspendre les activités de USAID, une agence qui intervient aussi dans le financement de plusieurs organisations non gouvernementales. De nombreux projets qui bénéficiaient de ces financements à travers la province de l'Ituri sont suspendus depuis l'annonce de cette mesure. Je vous propose d'écouter d'abord ces récits des faits avec Sadiki Aboubakar.
Plus d'une dizaine d'ONG exécutent des projets en Ituri grâce au financement de l'USAID. La plupart de ces organisations interviennent dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de la résolution des conflits, de la gouvernance sécuritaire ou encore de la stabilisation. Mais depuis la suspension des activités de l'USAID par le gouvernement des États-Unis, tous ces projets sont suspendus, sans espoir de reprendre. Un désarroi pour non seulement ces organisations, mais aussi pour des milliers de bénéficiaires à travers la province, où le besoin en assistance humanitaire est accentué avec les violences permanentes, notamment dans le territoire des Djougou. C'est ce qu'explique cet acteur humanitaire qui a requis l'anonymat.
À part ce contexte de déstabilisation qui est connu l'Ituri actuellement, l'Ituri est encore dans le contexte humanitaire aussi. Il y a beaucoup de personnes déplacées internes qui bénéficient des assistances humanitaires fournies par les dons de l'USAID. Nous allons connaître beaucoup de besoins qui vont s'accroître au-delà de ceux qui étaient déjà là. Nous allons demander aux autres bailleurs de fonds, par exemple l'Union Européenne. Il y a aussi les Japonais, les Anglais, les Britanniques, les Suédois, les Hollandais, qui ne puissent pas cesser d'appuyer le gouvernement congolais.
Il ajoute par ailleurs que le gouvernement congolais, à travers son ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, devrait maintenant prendre ses responsabilités en main. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Merci à vous, Sadik Aboubakar. Alors, est-ce que cette décision aura-t-elle des graves conséquences en RDC? Umbo Salama, Horace.
Oui, au premier moment, cette décision va avoir des grandes conséquences, surtout qu'il y a beaucoup d'organisations au niveau national et international qui avaient déjà des promesses de financement de l'USAID. Il y avait d'autres qui étaient en pleine activité, des activités qui étaient financées par l'USAID. Et aussi, comme vous le savez très bien, ce sont les organisations non gouvernementales qui constituent à plus de 60% de l'emploi en République démocratique du Congo. Et donc, si ces organisations se mettaient dans, se commençaient à croire que c'est avec l'USAID qu'elles vont fermer, alors à ce moment-là, c'est beaucoup de populations qui vont se mettre au chômage. À part ces conséquences qu'on va observer, il faut aussi qu'on puisse arriver à comprendre que quand une porte se ferme à gauche, il doit y avoir une autre porte qui va s'ouvrir à droite. Et donc, derrière chaque crise, il y a toujours de nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir et qu'il faut mettre en profit. Puisque si on fait un peu le pourcentage, si on fait les calculs, on va constater que l'aide locale est d'ailleurs plus supérieure à l'aide occidentale. Et donc, il ne faut pas chaque fois qu'on puisse rester au niveau de l'occidentalisation de l'aide humanitaire. Il faut essayer qu'on puisse chaque fois comprendre qu'il y a quelque part ce que nous appelons l'invisibilité de l'apport local dans l'aide humanitaire et qu'on ne veut pas essayer un peu de voir. Par exemple, ici chez nous, à l'est du pays, il y a beaucoup de déplacés qui ne sont pas dans des camps, mais qui sont dans des familles d'accueil. Et donc, ce sont ces familles d'accueil-là qui ont apporté la première assistance et qui apportent l'assistance au quotidien à se déplacer. Et si on essaie un peu de calculer l'assistance que les familles d'accueil apportent à se déplacer, on va constater que c'est de loin supérieur que l'assistance que les organisations internationales ont apporté à se déplacer. Mais qu'on puisse aller vers l'apport endogène dans le domaine humanitaire. Donc, il faut maintenant qu'on puisse commencer à penser comment mettre en profit l'aide locale pour développer nos propres populations, pour développer nos propres organisations et faire comme si on quitte le néocolonialisme avec l'USAID et les autres organisations internationales. Et c'est à ce niveau-là que les ONG doivent commencer maintenant à se réinventer, à se repenser, à revoir comment elles peuvent maintenant trouver de l'aide ici localement, donc faire le développement endogène. Puisque actuellement, avec l'aide humanitaire, on va dans ce qu'on appelle les triple nexus. Donc, il y a d'abord de l'aide. L'aide doit aller vers le développement. Et l'aide aussi doit aller vers la consolidation de la paix. Et donc, si l'USAID ferme les portes, il faut que les organisations locales et nationales puissent chercher d'autres moyens de survie, d'autres moyens de se financer avec l'approche endogène.
Mais pensez-vous qu'à part cette organisation, on peut tendre la main vers qui d'autre, par exemple en Afrique?
Oui, en Afrique, il n'y a pas assez d'organisations qui interviennent dans l'apport humanitaire, puisque d'ailleurs même l'Union africaine elle-même intervient très 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 rarement, que ce soit l'EAC, la SADC ou la CDAO, ce sont des organisations qu'on ne voit pas très actives dans les domaines humanitaires. Et donc d'abord en Afrique, je ne vois pas qui peut intervenir pour penser ces questions de crise et qu'on reste toujours au niveau occidental. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai dit, il faut que les organisations puissent repenser leur modèle économique pour voir comment elles vont continuer à œuvrer même sans cet apport occidental.
C'est autour d'un milliard de dollars américains si l'USAID fermait ses portes en RDC et partout au monde. Pour nous, ça sera un gap de 1 milliard, un manque à gagner. J.R. Mokolo, comment est-ce que vous appréciez cette décision de Donald Trump et son gouvernement?
Permettez-moi d'abord de dire ceci. Vous savez, beaucoup d'Africains, surtout des Congolais, étaient contre les démocrates et souhaitaient vivement que le républicain Donald Trump puisse en tout cas revenir aux affaires. Et ironie du sort, c'est lui aujourd'hui en tout cas qui pose des actes qui pratiquement des actes qui vont renforcer la misère et la souffrance des Africains et des Congolais qui avaient souhaité en tout cas sa réélection. Ça c'est juste une parenthèse. Et puis, une décision qui est intervenue de façon brutale. Il n'a même pas laissé un préavis, même de 3 mois, de 6 mois, directement. Il faut démanteler l'USAID qui nous apporte à nous, Congolais, par exemple, plus de 70% de l'aide que nous recevons de l'extérieur. Je m'excuse. Par exemple, les antirétroviraux que les gens, que les malades du sida prennent gratuitement. Des médicaments contre les hépatites, par exemple. Dans les secteurs de l'éducation, beaucoup, beaucoup de secteurs, en tout cas, vont être impactés négativement après la décision de Donald Trump. Donc, c'est vraiment une décision très, très malheureuse parce qu'il y a des gens qui vont perdre de l'emploi, il y a des projets qui vont s'arrêter et je ne vois pas notre gouvernement supplier 1 milliard de dollars pendant cette période de guerre où on est pratiquement là dans l'effort de guerre où tout le monde est appelé à serrer la ceinture. Donc, il y a des endroits où, en tout cas, la misère va s'accentuer. Ça, c'est mon sentiment. Et je suis vraiment très peiné de cette décision parce qu'elle est venue à un moment où le Congo a des difficultés, où les Congolais, en tout cas, souffrent terriblement et qu'à travers l'USAID, il y a des gens qui trouvaient un soulagement, qui trouvaient des solutions à leurs problèmes.
Serge Mafuta, vous voyez que Donald Trump n'est pas à sa première décision. Rappelez-vous, en 2017, il avait pris aussi une autre décision avec son gouvernement de déduire 7% de fonds de financement que les États-Unis donnaient aux Nations Unies. Maintenant là, si ça sera le cas pour USAID, 1 milliard de dollars, le Congo va en pâtir.
Je voudrais un peu aller contre la position de mon confrère Oumou Salam Adejir Moukolo. Je pense que de pareilles décisions doivent pousser la RDC à faire face à des circonstances qui s'imposent. Vous savez, quand un pays ne fait que se contenter des aides extérieures, non, les États-Unis va financer, France va financer, et qu'on sort. Voyez maintenant la conséquence. Je pense la décision de Donald Trump devrait peut-être faire une exception que s'il y avait des projets qui étaient déjà en exécution. Je prends un exemple qu'une école qui est en train d'être construite dans un village X. Il faudrait d'abord qu'on finisse la construction et qu'on coupe le projet. Maintenant, devant Trump a pris cette décision. C'est une façon aussi d'exciter les présidents africains à se contenter de ce qu'ils produisent. Je vais vous donner un exemple. Si on demandait hier qu'on puisse dissoudre les assemblées au niveau provincial, dissoudre le Sénat, restreindre le trait de vie des institutions pour permettre que le pays puisse avancer bien, tout le monde ne voulait pas. On disait non, bon, c'est une façon de créer aussi l'emploi pour certains. Mais pour certaines personnes, tout ça, ça pèse sur le gouvernement congolais. Vous n'allez pas me contredire aujourd'hui que à l'époque de Kabila, avec un budget de 4 milliards, 5 milliards, par rapport à 18 milliards que nous avons aujourd'hui, mais vous verrez que ce sont les autorités qui bénéficient plus que la population. La population continue à être toujours dans la misère. Donc cette décision, je sais que ça peut avoir des impacts négatifs sur le plan emploi, parce que ceux qui travaillent dans le cadre de l'ISAID seront renvoyés aujourd'hui au chômage. Mais c'est au gouvernement congolais maintenant de prendre sa responsabilité en main, d'exécuter ce plan qui est en train d'être proposé par la société civile, par certains acteurs politiques congolais, pour permettre que les fonds maintenant qui allaient vers ces institutions-là puissent s'y plier, qu'on puisse initier à continuer de tels projets pour permettre à achever d'une bonne manière. Vous savez que la main qui donne a été toujours au-dessus de celle qui est en train de recevoir. Aujourd'hui, les États-Unis décident, à travers Donald Trump, de suspendre cette aide-là. Je pense que c'est mettre devant la responsabilité les autorités congolaises. Ils doivent profiter à ce moment, achever ce projet-là et chercher à vivre avec nos propres moyens avant que les gens nous viennent en aide. Aujourd'hui, les États-Unis est soupçonné parmi les pays qui est en train d'exploiter illégalement les minéraux au niveau de l'Afrique. Parfois, il y a certaines personnes qui s'infiltrent à travers ces ONG-là pour financer la rébellion. Je ne dis pas que c'est le cas pour l'ISAID, mais dans des circonstances, on sait que non. Au niveau de Kivu, là-bas, il y a des ONG, parfois, qui financent clandestinement les groupes rebelles. Donc, les autorités congolaises doivent prendre leurs responsabilités en main, exécuter. Je pense, pour anticiper les dégâts ou les conséquences qui vont s'en suivre, il faut exécuter ce plan-là de la dissolution du Sénat, la dissolution des assemblées au niveau provincial, pour permettre que les fonds qui allaient vers ces institutions-là puissent aider ces projets à s'achever d'une bonne manière et permettre au peuple congolais. Je prends le cas des médicaments qu'on donnait au niveau de santé, le cas des VIH et consorts. Aujourd'hui, il n'y en aura plus parce que les projets sont rompus par Donald Trump. Mais on ne va pas aussi le forcer parce qu'il est le chef de son pays. Et il a pris cette décision, on va l'exécuter. Je pense que vous avez illustré l'exemple de la décision qu'il avait prise en 2017. Ça a eu des impacts sur les pays membres de Nations Unies. Mais ça n'a pas gêné parce que lui sait qu'avec ce fonds-là, ça peut l'aider à développer rapidement son pays. Vous êtes dans un pays où on nomme quelqu'un ministre aujourd'hui, dans 2-3 ans, il est plus riche. Il gagne plus de 50 000 dollars le mois. Alors que si on réduisait même les émoluments, et qu'on sort, ça pouvait aider que les choses tournent normalement comme ça.
Bien entendu, Serge, Umbo Salama, est-ce que ces cas USAID peut inquiéter les dignitaires qui sont en RDC, parce que la décision a été annoncée publiquement, mais personne d'entre eux n'en parle. Est-ce que ça les inquiète? Est-ce que ça les intéresse, ou c'est une affaire de la main d'œuvre congolaise qui était dans ces zones G?
Au niveau du gouvernement, on semble ne pas comprendre la question. Et on oublie qu'il y a beaucoup de ministères qui obtiennent aussi ces financements à travers, par exemple, l'UNESCO, l'UNICEF et d'autres organisations, l'OIM et d'autres organisations qui financent certains ministères, ministère de l'éducation, de la santé et d'autres ministères qui bénéficient de ces fonds. Et je pense que ça devrait les inquiéter. Et d'ailleurs, ça devrait même les inquiéter plus que même les gens des organisations. Puisque actuellement, les organisations ont aussi la possibilité de se tourner vers ce qu'on appelle dans l'approche actuelle l'économie sociale et solidaire, qui est l'approche actuelle qu'on est en train de prôner pour que les gens puissent sortir de la vulnérabilité. Et même les 2021 à 2023 avait déjà annoncé que l'économie sociale et solidaire pourra aider à atteindre plus facilement les objectifs de développement durable. Et même l'Union africaine aussi l'a fait en 2024, qui a aussi dit que c'est avec l'économie sociale et solidaire que les gens peuvent s'en sortir, que les gens peuvent se développer facilement. Et donc le gouvernement doit s'inquiéter puisqu'il fait partie des bénéficiaires de ces fonds de l'USAID, d'ailleurs plus que même les organisations locales et internationales qui sont en train d'œuvrer sur le sol congolais.
Merci à vous, ça sera aussi votre conclusion. Nous allons à vous, J.R. Mokolo. Est-ce que cette problématique de financement de USAID peut-il intéresser ceux qui sont au pouvoir en RDC?
En tout cas, en dehors de la situation qui se passe à l'est du pays, en termes d'affrontement, je n'ai même pas, en tout cas, entendu un membre du gouvernement prendre en charge cette question. Et pourtant, surtout au niveau du ministère de la Santé, du Développement Rural et de l'Éducation, il y aura beaucoup de répercussions, quoi. Donc, les gouvernements, le membre du gouvernement ont tort de ne pas, en tout cas, s'y pencher sur cette question. Peut-être qu'ils ne font pas ouvertement, peut-être que dans leur cabinet, ils sont déjà en train de travailler. Mais je regrette parce que, par exemple, hier, au cours d'une émission là, sur Radio Kafi, on a invité un délégué du ministère du Plan qui est concerné par cette question-là. Et le ministère n'a envoyé personne, en tout cas, pour expliquer à l'opinion les contours, en tout cas, de cette décision prise par Donald Trump de pouvoir supprimer, de pouvoir démanteler l'USAID, dont la RDC en tout cas était pratiquement les plus grands bénéficiaires de l'aide en termes de 1 milliard de dollars. Donc ce sera en tout cas irresponsable de la part de nos autorités de ne pas réfléchir, de ne pas prendre ces questions en charge parce que donc c'est la population congolaise en tout cas qui va souffrir, qui va commencer à se plaindre. Donc il faut vraiment qu'on trouve une solution à ces problèmes, qu'on trouve des financements alternatifs pour compenser en tout cas les manques à gagner dû au fait que le gouvernement américain a supprimé l'USAID.
Serge Mafuta, que direz-vous par exemple au gouvernement congolais face à l'employabilité de cette main-d'œuvre qui bénéficiait du financement de l'USAID qui sera en chômage peut-être?
Les États-Unis n'est pas le seul pays au monde qui est barrière. Je pense qu'il est temps que le gouvernement congolais puisse prendre contact avec d'autres pays pour permettre à parler à cette situation, mais aussi faire à équilibrer les choses, qu'on puisse réduire les traits de vie des institutions, dissoudre les assemblées, dissoudre les sénats, et chercher à baisser aussi les avantages que les mandataires publics touchent pour permettre que nous ayons des réserves pour faire face à cette situation-là. C'est le moment de recourir vers la Chine, la France, l'Allemagne, pour ne pas citer tous les pays des Occidentaux qui appuient les pays africains pour chercher à parler à cette situation. Et surtout, nous sommes des Bangala. On a toujours dit, il faut pas faire un projet pour le bien d'autrui. Quelqu'un qui t'aide, il faut savoir qu'un jour, les États-Unis peuvent tomber dans une faillite, dans un problème, et décident aujourd'hui de suspendre brusquement. Il faut savoir qu'au cas d'absence de ces peuples-là, nous allons opérer de telle façon pour faire face à nos problèmes, pour permettre que le pays puisse émerger, et que ceux qui travaillent au sein de l'USAID, je pense qu'ils avaient des contrats. Que les États-Unis ne puissent pas aussi les laisser comme ça. Il faut respecter, on doit rompre les contrats, mais il faut aussi payer ces gens-là les tâches dont ils ont réalisé, pour leur permettre aussi à prendre en charge leur famille. De toutes les façons, c'est un peu une décision inquiétante, mais il n'y a pas moyen de dire le contraire parce que cette décision-là, elle sera appliquée, c'est une décision du président de la République et on ne peut qu'accepter ça, mais il faut faire face à cette décision en prenant des mesures pouvant permettre qu'il ait l'encadrement des fonds pour pallier à cette situation.
Tribune de la presse, c'est terminé pour ce jour. Je vous dis merci, chers confrères, pour votre contribution à cette production radiophonique. Serge Mafuta, journaliste et directeur de la radio rurale de Guémena. Umbo Salama Horace, journaliste et directeur de la Radio Soleil FM à Butembo, au Nord Kivu. Merci aussi à vous, J.R. Mokolo, journaliste basé ici à Kinshasa. À la technique, Dieudonné Nyangasa. Au nom de toute l'équipe de la Tribune de la Presse, Kéline Kouté, Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebou-Djangwe. Je suis Freddy Ignace. Prochain rendez-vous, vendredi.